RFI, grand reportage.
Quand rien ne change, les gens perdent espoir. Ce que Zelensky a fait en premier lieu, c'est qu'il a rendu l'espoir aux gens.
Le magazine de la rédaction vous emmène aujourd'hui dans l'est de l'Ukraine, une région déchirée par la guerre depuis 2014, où des combats se poursuivent tout au long, ou presque, de la ligne de front. Toutefois, de premières zones ont été démilitarisées récemment. Pour les civils, les conditions s'améliorent au point de passage et certains se prennent à espérer une paix prochaine. La paix est-elle possible dans l'est de l'Ukraine ? Un grand reportage de Sébastien Gobert.
À première vue, c'est un champ comme les autres dans l'extrême est de l'Ukraine. Les chiens errants cherchent une quelconque nourriture et des corbeaux volent bas dans le ciel. Les abords du village de Zoloté fourmillent pourtant de soldats. La zone a longtemps été l'un des points chauds dans la guerre qui déchire la région depuis 2014. Mais aujourd'hui, le calme règne. Le lieutenant Soulimenko est en charge des positions.
Personne ne tire plus ici. Nous entendons au loin des tirs, mais en fait, on ne sait même pas d'où ils viennent. La situation est calme, stable.
La situation autour du point de contrôle de Zoloté s'est apaisée il y a quelques semaines à peine grâce à un retrait militaire coordonné des deux côtés de la ligne de front. Les belligérants se sont chacun reculés d'un kilomètre sous la supervision de l'OSCE. Fin novembre, la neige n'est pas encore tombée sur les champs. Une poignée de soldats est affairée à creuser de nouvelles tranchées pour consolider les nouvelles positions. Comparé aux abris que l'armée ukrainienne s'était aménagés au cours des 5 dernières années, ces positions semblent très précaires.
Imaginez que vous achetez un nouvel appartement. Ce n'est pas un mal en soi, mais il faut emménager et s'installer. C'est pareil ici. Les anciennes positions étaient bien consolidées, défendues et reliées entre elles. Ici, ce sont des bonnes positions en soi, mais il faut encore du travail.
Malgré le ton affable du lieutenant Soulimenko, le désengagement ne va pas de soi pour tous les soldats. Le jeune Oleksiy Kravchenko monte la garde dans un avant-poste fraîchement creusé dans le sol.
Le désengagement, ça a été une surcharge physique de travail, mais ça fait partie du travail. En tant que soldat, on veut aussi que cette guerre s'arrête. Mais le plus dur, ça a été de ne pas comprendre le plan général du désengagement et de ne pas savoir si cela peut mener à la stabilité.
Le président Volodymyr Zelensky, un ancien comédien élu en avril dernier, est à l'origine de cette politique de démilitarisation de la ligne de front, dans le but d'apaiser les tensions. Depuis l'annexion de la Crimée en mars 2014, la guerre du Donbass, du nom du bassin minier de l'Ukraine de l'Est, a causé la mort de plus de 13 000 personnes selon l'ONU. Le conflit oppose les troupes ukrainiennes à des forces séparatistes soutenues par la Russie. Il a provoqué 1,5 million de personnes déplacées et déstabilisé une région de 7 millions d'habitants, autrefois très intégrée économiquement. Le long d'un front stabilisé, les soldats mènent une vie de tranchée qu'auraient pu connaître les poilus de la Première Guerre mondiale. Des duels d'artillerie continuent d'aggraver le bilan humain chaque semaine. Le désengagement a visé Zoloté et deux autres endroits, aujourd'hui calmes mais très isolés. La plupart des 400 km de la ligne de front restent très actifs. À Avdiivka par exemple, à une centaine de kilomètres à l'ouest de Zoloté, il n'est pas question de démilitarisation. On y rencontre le soldat Alexander en charge d'un avant-poste.
Leurs positions sont à 70 mètres environ. C'est assez calme ces temps-ci grâce à la trêve. Mais chaque soir, ils tirent à l'artillerie légère, Kalachnikov ou mortier. En gros, ça dure du coucher du soleil à 5-6 heures du matin.
« Les provocations viennent des deux côtés, selon les observateurs de l'OSCE. À Avdiivka comme ailleurs, les belligérants se tirent dessus, sans raison stratégique. Ici, les soldats sont installés pour durer dans des abris souterrains. Chauffage, écran large de télévision, connexion Wi-Fi. Ils n'ont même plus besoin de sortir pour surveiller les alentours.
Regardez, on a installé une caméra en haut d'un périscope. On peut s'asseoir au chaud et observer les positions sur l'écran. Vous voyez, il y a quelques jours, nous avons fait une incursion de 30-40 mètres dans le No Man's Land pour planter un drapeau ukrainien.
Un service de cantine tourne en continu pour alimenter cette petite ville militaire. On est loin des soldats et volontaires de 2014 qui s'étaient rendus au combat en basket, sans armes ni approvisionnement. L'amélioration des conditions de vie, combinée à l'inertie du front, inspire à Alexander un sentiment de normalisation. Les affrontements de la nuit ne sont d'une certaine manière qu'une partie de la routine quotidienne. Cette banalité de la guerre explique pour lui que le conflit n'est plus d'actualité pour la majorité des Ukrainiens.
Les civils ne savent pas ce qui se passe ici, c'est évident. Tous les tirs que l'on endure chaque nuit, ce sont des statistiques pour eux. Il faut des morts ou des blessés pour attirer l'attention du public. Sinon, les violences ont retrouvé une certaine normalité.
Habitué à cette situation, Alexander et ses camarades affirment tous vouloir la paix. Mais le désengagement, ils ne l'accueillent pas avec enthousiasme. Dmitro Yavori est le commandant adjoint des avant-postes à Avdiivka.
Il y a deux réponses à cette question. Du point de vue de la protection des citoyens, c'est problématique parce que nos positions sont aux abords d'une zone peuplée. Si l'on se retire, cet endroit va devenir une zone grise. Du point de vue du soldat que je suis, s'il y a un ordre qui vient de mon commandement, j'obéirai et je le ferai appliquer, bien évidemment.
Dmitro Yavori et ses hommes ont un devoir de réserve sur la question du désengagement. Ce n'est pas le cas de Pavlo Bilous, un vétéran rencontré à Kiev.
Je le dis depuis le début, ce n'est pas un désengagement, ce n'est pas une diversion, c'est une retraite. Ici, on ne sait pas dans quel sens aller. Là, on dit que c'est démilitarisé, alors que ça ne bouge pas. Il est très difficile de discerner la vérité.
Pavlo Bilous fait partie de ces nationalistes et groupes de vétérans de guerre qui considèrent tout recul comme une capitulation. Sur le front, ils ont juré de se substituer à l'armée si les séparatistes venaient à avancer. À Kiev, ils ont mené plusieurs manifestations de grande ampleur pour protester contre les négociations entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Selon eux, tout compromis serait déjà une compromission, voire une trahison des intérêts nationaux. Loin de la rue, le président ukrainien prend ses critiques avec hauteur. C'est en courant sur un tapis d'appartement qu'il commente ses efforts de paix dans une de ses vidéos selfies dont il a le secret.
Notre politique, c'est une chance unique de relancer un dialogue nécessaire pour parler à tous nos Ukrainiens de l'autre côté et arrêter les hostilités. Alors, je vous demande de ne pas prêter attention aux manifestations payées par des opposants qui ne cherchent qu'une raison pour essayer d'exister sur la scène politique.
En amont des négociations politiques à Paris, Volodymyr Zelensky peut s'appuyer sur un succès bien concret sur une des trois zones démilitarisées. À Stanitsa Luganska, le pont qui enjambait la rivière Siversky-Donetsk avait été détruit en 2015. Il a pu être reconstruit grâce au retrait des troupes. Nelia Dotsenko est porte-parole du corps des gardes-frontières.
Le point de passage de Stanitsia est le seul de la région du Louhansk. Il n'y a pas d'autre alternative pour traverser.
C'est un flot incessant de civils qui traversent d'un côté à l'autre.
Plus de 13 500 personnes traversent le pont de passage chaque jour. 70% d'entre elles sont des personnes âgées qui se déplacent en territoire contrôlé par l'Ukraine pour recevoir leur retraite et des pensions d'État. Beaucoup viennent aussi rendre visite à leur famille.
Certains traversent aussi pour faire des affaires.
Welcome to Ukraine.
Welcome to Ukraine.
Le jeune Oleksandr Rodnoy revient tout juste des territoires contrôlés par la République populaire autoproclamée de Lugansk. Il y a vendu des produits alimentaires en jouant sur les différences de prix. Après avoir franchi le pont, il embarque dans un bus qui file sur de l'asphalte neuf vers le point de contrôle ukrainien. Des innovations qui sont toutes récentes.
C'est bien mieux comme ça. Avant, c'était très dur pour les babouchkas et les invalides. Et on espère qu'on aura bientôt la paix.
À Stanitsa Luganska, on voit les effets pratiques de la politique du nouveau gouvernement ukrainien. Après des années de blocus économique, énergétique et commercial sous la présidence de Petro Poroshenko, Volodymyr Zelensky a promis une amélioration des conditions humanitaires. Son ministre des Affaires étrangères, Vadim Pristaïko, résume cette politique.
La formule Zelensky, c'est une série de gestes simples pour gagner les cœurs de nos Ukrainiens de l'autre côté de la ligne de front. Par exemple, restaurer le paiement des retraites, assurer les transactions pour les services de base comme l'eau, permettre de transporter plus de marchandises par-delà la ligne de front. Les conditions pour vendre ces produits autour du pont de Stanitsia, c'est terrible. Il faut changer cela.
Des engagements militaires et politiques humanitaires sont des idées soutenues par une majorité d'Ukrainiens. Pourtant, les réticences sont nombreuses à cause d'une défiance profonde vis-à-vis de la Russie et de ses satellites séparatistes. Beaucoup estiment ici que le Kremlin ne veut pas la paix et cherche avant tout à nier la souveraineté ukrainienne pour reconstruire son emprise impériale perdue à la chute de l'URSS. Moscou encourage d'ailleurs l'obtention de la citoyenneté russe pour les habitants du Donbass. De leur côté, les autorités autoproclamées de Lugansk et Donetsk ont affirmé à plusieurs reprises qu'elles ne souhaitaient aucune réintégration au sein de l'Ukraine. Denis Pouchilin, le chef de la République de Donetsk, vient d'ailleurs de faire passer une loi sur les frontières nationales qui renforce le corpus législatif de l'entité séparatiste. Il l'explique pour la chaîne d'État russe, Rossiya Adin.
Selon notre constitution de 2014, notre territoire national comprend toute la région de Donetsk, donc rien de nouveau ici. Notre loi sur les frontières n'est donc pas une violation du processus de Minsk, parce que je rappelle que le conflit n'est pas terminé.
Les négociations politiques s'annoncent donc très complexes, d'autant qu'un accord de paix devra être soutenu par les populations locales pour être durable. Mais sur le point de passage de Stanitsa Luganska, les opinions sont très divergentes. Natalia marche vers le côté séparatiste.
Que la guerre s'arrête et qu'on revienne en Ukraine, on ne peut pas vivre dans leur République de Louhansk, voilà ce que j'en attends.
À ses côtés, Maria a un avis très opposé.
C'est bien de tenir un sommet, mais il est encore trop tôt pour revenir en Ukraine. Pourquoi trop tôt? Parce qu'il faut d'abord qu'ils se débarrassent de leurs nationalistes en Ukraine. Ils sont trop tolérés. Et ensuite, il faut un gouvernement normal. Parce qu'en ce moment, ils nous voient comme des espèces de zombies. Si l'on réintègre maintenant, ils vont commencer à nous persécuter.
À la sortie du nouveau pont, côté ukrainien, Aliona est avant tout désabusée.
Je n'attends aucun résultat. Tout ça, c'est de la politique, c'est loin. Je suis diabétique, originaire de Stanitsia, du côté ukrainien. Mais notre maison a été bombardée, alors j'habite avec mon fils à Louhansk. Ce que j'attends, c'est moins de ces contrôles qui nous pourrissent la vie.
Personne ici ne s'attend à une paix imminente, mais le jeune Oleksandr Rodnoï affiche un pragmatisme optimiste.
On ne croyait pas que l'on pouvait avoir un nouveau pont, mais on l'a. Les troupes se sont retirées. Il y a des choses qui changent et c'est essentiel. Quand rien ne change, les gens perdent espoir. Ce que Zelensky a fait en premier lieu, c'est qu'il a rendu l'espoir aux gens.
À supposer que toutes les parties en présence cherchent à atteindre une paix juste et équitable, le futur politique de la région est plus qu'incertain. La stratégie des petits pas actuels pourrait peut-être mettre fin au seul conflit armé sur le continent européen. Avant d'en arriver là, elle pourrait au moins redonner aux habitants l'impression d'une vie normale.
La paix est-elle possible dans l'est de l'Ukraine ? Un grand reportage de Sébastien Gobert, réalisation Eva Piedel.
Война ломает судьбы, это не новость. И слишком рано на висках седина. Воспоминания во снах несут горесть. Что ты наделала, злодейка, война? О, дай Боже шансы живых остаться, еще бы рывочек и до своих бы добраться. Перебежками быстрыми под звуки взрывов и выстрелов повис на шее груз мести, не превратился бы в 200. Под канонады орудий едва улавливал суть, я рукой на все бы махнуть, но предстоит долгий путь. Ребят, потише, не лезьте, держу врага в перекрестье. Еще немного усилий, потом отпразднуем вместе. Под перекрестным огнем, кустами кожу сдирая, из зацепления выходим, нам слишком рано до рая, нам слишком рано до края, нам слишком рано для смерти, нам с подкреплением связаться. Прошу, ребята, ответьте. Земля смешается с кровью, тела измучены болью. Сейчас бы залпом граненый, да хлеб посыпанный солью. Не всем дано возвратиться, кружат над бойнею птицы. Еще немного пожить бы, скоро сыночек родится. На себе познал, какой мир жестокий. Пару отметин от осколочных ран. В военной форме паренек одноногий. За свою родину здоровье отдал. Война ломает судьбы, это не новость. И слишком рано на висках седина. Воспоминания во снах несут горесть. Что ты наделала, злодейка, война? Он на себе познал, какой мир жестокий. Пару отметин от осколочных ран. В военной форме паренек одноногий. За свою родину здоровье дай.
Appelez-nous.